Voyage au bout du monde. Une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Bordée par le Pacifique, traversée par les Andes et coupée par la ligne équinoxiale, eh bien l'Équateur est une terre d'exception qui renferme une des plus grandes biodiversités du globe. Et c'est en Équateur que nous partons aujourd'hui en compagnie de Linda Paquette. Bonjour Linda.
Bonjour.
Vous êtes venue avec Martin Parent présenter un film que vous avez réalisé dans le cadre des conférences Altaïr. Et donc, c'est là où vous nous emmenez aujourd'hui. Alors, de l'Équateur, en fait, vous le présentez en parlant effectivement de cette diversité. C'est vrai qu'il y a une diversité incroyable de relief, tout d'abord, donc de paysage, donc de climat.
Tout ça est interrelié, hein? C'est un pays où on retrouve effectivement les Andes, donc les Andes qui partent du niveau de la mer à plus de 6000 mètres. Alors, on a déjà là une panoplie d'écosystèmes extraordinaires. À l'est des Andes, c'est l'Amazonie, parce qu'il y a une parcelle du bassin amazonien sur le territoire équatorien. Et ça, peu de gens le savent. Hein. C'est tout petit, on a à peu près 2 à 3 % de l'Amazonie en Équateur, mais c'est un îlot, c'est une parcelle de l'Amazonie extrêmement riche en termes de biodiversité, bien connue des chercheurs depuis déjà des décennies. Et puis, du côté ouest des montagnes, on a une plaine côtière. Alors là aussi, des écosystèmes, des climats complètement différents. Donc, vous l'avez dit, diversité de géographie, de climat, et tout ça supporte une biodiversité unique. Et relié à tout ça, il y a aussi des populations. Des populations, une mosaïque de populations uniques, des gens qui habitent dans les montagnes en très haute altitude, comme les Quechua, dont on parle dans le film, et puis des populations Chua, Warani. Donc oui, c'est une mosaïque de tout ça. C'est pour ça qu'on a appelé notre film « Terre de diversité », parce que pour moi, ça incarne exactement ce qu'est ce petit pays, ou ce grand petit pays, comme on dit souvent.
Oui, parce qu'en fait, il représente la moitié de la France hein, seulement.
Oui, en fait, c'est ça. C'est pas très vaste comme superficie, comme territoire, mais c'est environ, ouais. L'équateur continental équivaut à environ la moitié de la France. Et pour compléter, parce qu'on a nommé l'Amazonie, les Andes et cette plaine côtière, mais il y a les Galapagos. Et souvent, lors de nos séances, les gens disent « Ah, mais je connais les Galapagos, mais je savais pas que c'était un territoire équatorien. » Alors oui, alors il y a ça aussi en Équateur.
Alors qu'en plus, c'est un petit peu compliqué d'y aller parce que c'est quand même un territoire très préservé, hein, les Galapagos.
Ah oui, oui, c'est un paysage. Oui. Ben oui, heureusement, parce que beaucoup de monde veulent y aller. Alors oui, il faut bien protéger tant le territoire terrestre que marin qui entoure ces îles, ouais, bien sûr.
Et vous, alors, Linda Paquette, avec Martin Parent, en fait, vous êtes au départ de formation géologue cartographe. Donc c'est vrai que vous avez un œil peut-être un petit peu particulier sur ces pays.
Qu'on visite également les autres. Oui, on a tous les deux une formation en sciences de la Terre, donc en géologie. Premier niveau qu'on appelle le baccalauréat chez nous, c'est le premier niveau universitaire.
Chez vous, parce qu'on entend que vous êtes d'origine canadienne.
C'est vrai, on n'a pas précisé. Oui, je suis québécoise, je suis de Montréal. Et donc, oui, on a fait des études en géologie, et puis Martin a fait une spécialisation, une maîtrise en géochronologie. Donc, il sait dater les roches. Et moi, j'ai plutôt fait une spécialisation en métallogénie. Alors, je m'intéresse à tout ce qui explique la formation des gisements, l'évolution des gisements à travers les époques géologiques. Alors, voilà. Et puis, on a fait beaucoup de cartographie géologique ensemble dans le Grand Nord du Québec.
Voilà, donc là, vous avez dû effectivement vous régaler. On le voit dans le film, hein, parce qu'il y a une richesse, hein, de par notamment les volcans, en fait, mais une richesse, on voit, de couches à étudier, de couches successives, hein, qui racontent toute la formation de ce pays.
Oui, évidemment, on aurait pu faire un film uniquement sur la géologie de l'Équateur, mais bon, ça aurait été peut-être un film un peu trop niché pour un public qui vient voir les ciné-conférences. Mais effectivement, quand on a l'œil du géologue, eh bien, on regarde et puis on analyse le paysage d'une façon qui est un peu différente. Et puis quand on est justement allé voir le Chimborazo, quand on est allé visiter la région du Chimborazo,
qui est un volcan,
le plus haut volcan de l'Équateur et aussi le plus haut sommet du pays. Et puis on s'est retrouvé devant ces falaises de cendres. C'est des strates, en fait. On voit vraiment la rythmicité des éruptions qui sont là devant nos yeux. Alors, pour deux géologues, c'était vraiment un grand régal.
Du bonheur. Et puisqu'on est dans l'histoire de la formation du pays, alors on ne va pas revenir sur depuis les débuts des temps, quoique si, quand même un petit peu, parce que vous expliquez bien dans le film qu'il y a des endroits qui sont préservés, ou finalement où on pense pouvoir dire qu'elles datent d'avant toutes les périodes de glaciation, etc.
Oui, ben en fait, on parle d'histoire géologique, oui, sur le territoire amazonien, équatorien, on a des parcelles de forêts tropicales qui auraient survécu aux différentes époques glaciaires qu'a connues la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Alors, il y a des îlots de ces forêts qui auraient probablement survécu à toutes ces époques. Alors, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les scientifiques, parce qu'il y a certaines parcelles qu'on pense qui existent depuis plus de 55 millions d'années. Alors, vous imaginez toute l'évolution de la biodiversité à travers une période aussi longue. C'est ce qui fait l'attrait, l'intérêt et puis la richesse de ces forêts, oui.
Et comme vous le disiez, ce qui fait aussi la richesse et la diversité de l'Équateur, c'est aussi sa population. On va venir justement un petit peu sur l'histoire de cette population, parce que en fait, la colonisation, enfin les conquistadors sont arrivés au 17e.
En fait, ils sont arrivés en 1534. Donc, ça fait déjà 16e. Et puis, ils sont arrivés là, ils n'ont rien découvert. Hein. Ils sont arrivés là et puis ils ont conquis les Incas, qui étaient à l'époque aussi des conquérants. Hein. Les Incas ont quand même conquis aussi de grandes régions de l'Amérique du Sud. Alors, quand les Espagnols sont arrivés en Équateur, il y avait la civilisation Inca, qui était une des civilisations dominantes, en tout cas dans la Sierra. Mais ce dont on parle un peu dans notre film et puis qui est peu connu, c'est qu'avant les Incas, il y a eu d'autres cultures, d'autres civilisations importantes que les gens connaissent moins parce qu'ils ont souvent laissé des vestiges moins impressionnants que Machu Picchu, où en Équateur, on retrouve un site Inca qui s'appelle Inga Pirca, qui est dans le centre du pays. Alors, évidemment, les gens vont visiter Inga Pirca parce que, bon, c'est quelque chose au niveau du patrimoine Inca qui est important. Mais nous, on a levé le voile un peu sur d'autres civilisations, notamment une qu'on appelle la culture Kitukara. Les Kitukara, ce sont probablement eux qui ont habité la région de Quito avant les Incas. Pendant plus de 1000 ans avant l'arrivée des Incas, on retrouvait cette culture qui a laissé très, très peu de vestiges. Quelques pyramides, quelques sites archéologiques, comme on les montre dans le film, Kochaski, par exemple. Mais ils n'ont pas laissé de vestiges aussi grandioses que les Incas. Et les Incas ont probablement détruit beaucoup de ce que ces Kitukara avaient construit. Mais pourtant, les Kitukara, certains les considèrent comme peut-être les précurseurs de la connaissance astronomique.
Parlez-nous du site, dont j'ai oublié le nom, c'est des noms un petit peu compliqués, oui, hein, donc vrai, vous m'excuserez, oui. Mais il y a un site effectivement qui est assez impressionnant.
Oui, mais en fait, en Équateur, hein, le pays porte son nom d'après la ligne équatoriale, hein, l'Équateur qui divise en fait la Terre, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors l'Équateur est pile poil sur cette ligne. Et en fait, même Quito est presque directement au niveau de l'Équateur. Et puis cette ligne-là, ben, elle fascine évidemment l'humain, l'homme, depuis bien, bien longtemps déjà, depuis des millénaires. Et puis les populations andines ont maîtrisé l'art de l'observation des astres, la course du soleil, de la lune, depuis bientôt des milliers d'années. Alors avant que les Espagnols, que les Européens débarquent et puis avec leurs connaissances plus modernes pour positionner par exemple la ligne équatoriale et puis pour comprendre tout ça, ben, les Kitukara, probablement il y a plus de 1000 ans, savaient déjà où était la ligne équatoriale. En fait, ils ont positionné cette ligne au centimètre près. Et puis nous, on l'a testé avec un GPS. On était sur un site qui s'appelle Monte Catequilla, qui est tout près de Quito. Et puis là, les Quitucara, il y a plus de 1000 ans, savaient exactement où la ligne équatoriale passait. Ils ont été en mesure de positionner cette ligne en observant depuis ces montagnes qui offrent des vues à 360 degrés. Donc, ils ont observé la course des astres au fil de l'année et puis ils ont parfait leur connaissance en astronomie. Et puis, ils savaient exactement que cette ligne passe à quelques kilomètres de Quito. Et aujourd'hui, la plupart des voyageurs qui vont en Équateur vont voir la ligne équatoriale dans un endroit un peu plus touristique, et puis tout le monde veut se faire photographier avec un pied dans l'hémisphère sud et un pied dans l'hémisphère nord. Et nous, ben, on a voulu montrer ce site-là qui s'appelle Monte Catequilla, qui est peu connu, même les Équatoriens. Plusieurs ne connaissent pas l'existence de ce... En fait, c'est un bastion de la connaissance en astronomie. Et puis, ben voilà, on a voulu pointer un peu ce site-là. Difficile à trouver, difficile à débusquer. Il faut trouver un bon chauffeur de taxi qui veut bien nous amener et puis qui veut bien nous aider à le trouver. Mais voilà, c'est tout ça, en fait. En Équateur, nous, ce qu'on a aimé, c'est qu'il y a tous ces secrets, tous ces pans de l'histoire naturelle, culturelle du pays, qui sont pas des grandes vedettes des pamphlets des voyagistes pour l'Amérique du Sud, mais qui sont fascinants, peu visités. Hein? On a beaucoup de place comme voyageur en Équateur. Hein? On peut avoir l'impression qu'on n'est pas les premiers, mais bon, on est hors des sentiers balisés souvent, et c'est très, très agréable, très riche.
Oui. Alors, on va faire un petit peu de ces sentiers balisés, hein, quand même. Hein. Oui. Enfin, balisés, mais pas tant que ça en même temps. Hein. Donc, vous parliez de ce peuple qui précédait les Incas, ce peuple précurseur. Oui. C'est sans doute eux qui ont donné leur ville à la capitale de l'Équateur, Quito.
Oui, les Quitucara sont ceux qui ont probablement nommé Quito. Quito, donc le nom de cette capitale qu'on connaît, Quito, est lié directement au peuple Quitucara. Donc, le nom est hérité du nom de la culture. Et puis,
donc, c'est une façon de laisser des traces aussi. Hein?
Oui, en donnant son nom à des endroits, on laisse sa trace, oui, bien sûr.
Si on fait une petite visite express hein, de Quito, on peut parler surtout peut-être des traces des conquistadors, puisque c'est ce qu'on voit dans votre film.
Bien évidemment, Quito et puis surtout le centre historique de la ville, parce que c'est surtout cette partie que les gens découvrent en tant que voyageurs, c'est l'époque coloniale, hein, c'est vraiment les vestiges architecturaux des Espagnols qui sont là. C'est très connu auprès des architectes et puis de ceux qui aiment beaucoup l'histoire pour son patrimoine baroque. Les églises de Quito sont bien connues, sont très riches, en fait, richissimes, je devrais dire. Hein.
Presque très, très, très chargées, en fait.
Oui, très, très chargées, mais autant en extérieur, parce que les façades sont vraiment, c'est comme de la dentelle en pierre, mais dès qu'on pénètre à l'intérieur de ces églises, on tombe vraiment, c'est le baroque à son paroxysme, avec les retables dorés, tout est finement ciselé, les Espagnols sont arrivés avec leur baroque. Et puis en arrivant sur le territoire du Nouveau Monde, que ce soit en Équateur, mais aussi ailleurs, au Pérou, au Mexique, ben ils ont initié les populations locales à cet art, à cette maîtrise de la sculpture, de la peinture. Et puis ils ont le baroque a pris de nouvelles envolées. Et puis à Quito notamment, on a créé un mouvement artistique qu'on a nommé l'École de Quito. Et puis là, en fait, ce qui fait la renommée de l'École de Quito, c'est son réalisme.
Et pour cause,
oui. Quand on regarde les statues des vierges éplorées ou celle de Jésus avec la couronne d'épines, hein, c'est très réaliste. On voit le sang couler, on voit les larmes couler. Alors oui, l'école de Quito est grandiose et magnifique. Mais une chose qu'on a voulu souligner quand même un peu dans le film, c'est que quand on entre dans les églises à Quito, on est bien sûr impressionné hein, par ce savoir-faire. Mais quand on commence commence à comprendre un peu comment ça s'est passé, il y a beaucoup d'indigènes, des métis également, qui ont participé en fait à la réalisation de ces chefs-d'œuvre. Il y avait un grand maître qui faisait bon les plus grands tableaux et puis qui enseignait aux autres comment on fait de la peinture, de la sculpture, mais les églises de Quito ont été réalisées en très très grande partie par ces gens qui n'ont pas signé leurs œuvres, qui sont anonymes finalement. Et puis comme on le disait aussi dans le film, ça a été une façon pour les Espagnols d'assimiler puis de convertir aussi les peuples au catholicisme, parce que en leur montrant un Dieu aussi grandiose, aussi merveilleux, en construisant avec eux ces églises qui croulaient sur l'or, ben les peuples indigènes se sont sentis aussi interpellés et puis se sont finalement convertis au catholicisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas renié complètement leur croyance animiste, leur tradition. Et puis en Équateur, on retrouve ce qu'on appelle le syncrétisme, qui est en fait, puis ben, c'est pas qu'en Équateur, mais on le retrouve là aussi. Donc c'est un catholicisme qui est teinté de traditions, de savoir-faire, de croyances qui sont purement andines. Alors ça, c'est très, très beau lors des festivals, notamment qui ont lieu après Noël ou pour la Pâque. On assiste à des défilés où on voit clairement les symboles du catholicisme, mais complètement transformés avec...
Adaptés.
Ah, oui, 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 avec ses démons, ses couleurs, les symboles qui lient l'humain à la terre-mère, à la Pachamama. Alors ça, on tenait à le souligner parce que oui, l'art baroque, c'est magnifique, mais derrière ça, ben, se cache aussi le colonialisme, puis l'asservissement aussi.
Il y a un peu une réalité politique.
Oui, hein. Oui. Les peuples autochtones ont été asservis et puis ils ont été infériorisés pendant des siècles, hein, jusqu'à tout récemment. Alors, oui.
Alors justement, vous dites, Linda Paquette, jusqu'à tout récemment, ça veut dire effectivement il y a une petite ouverture, là, on sent que les Quechua, si c'est bien comme ça qu'on prononce, hein, reprennent un petit peu de place.
Les Quechua, les populations Quechua, mais aussi les autres, en Équateur, mais j'aimerais dire à travers toutes les Amériques, reprennent les rênes de leur destin. Et puis en Équateur, ça a commencé dans les années 90. Il y a plusieurs mouvements, associations politiques qui se sont regroupées, qui ont formé ce qu'on appelle là-bas la CONAE, qui est l'association autochtone la plus forte du pays, qui a un pouvoir politique maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Équateur, les autochtones, ça représente plus de 30% de la population. Alors, c'est pas rien. Ils ont un pouvoir. Oui, un pouvoir démographique, et puis ils ont maintenant un pouvoir politique. Alors, à partir des années 90, ces mouvements associatifs et puis politiques se sont regroupés pour maintenant former quelque chose qui a un réel effet dans l'échiquier politique du pays. D'ailleurs, même aux dernières présidentielles là-bas, si je ne me trompe pas, je crois que le candidat qui est arrivé deuxième, c'était quelqu'un de nationalité, d'origine autochtone. Alors, c'est impensable, ça, il y a plusieurs décennies, alors que les Autochtones étaient vraiment vus comme des
moins que rien.
Oui, des moins que rien. Ils n'étaient pas éduqués, on leur a ôté leur langue, leur tradition, leurs connaissances. Et maintenant, ça, c'est en train de changer. C'est certain qu'il y a encore d'énormes défis. Les inéquités sociales sont importantes entre les Autochtones, les Quechua et autres, et puis les Métis. Les plus pauvres de la société sont bien sûr souvent les populations autochtones, mais j'aime bien voir qu'il y a une certaine lueur d'espoir pour ces gens, parce que depuis quelques décennies, ils reprennent leur place, ils sont présents au niveau de la politique, ils sont présents au niveau de l'éducation aussi. Il y a quelques décennies, la langue quechua n'était plus enseignée enseigné dans les écoles. En fait, on n'enseignait que l'espagnol pour évidemment évacuer tout ce qui était autre que la culture espagnole. Mais maintenant, on enseigne le quichua dans les villages des Andes. On enseigne aussi le chouar dans certaines régions des basses terres du côté de l'Amazonie. Et ces deux langues sont même officiellement reconnues maintenant au même titre que l'espagnol dans les textes de loi du pays. Alors, c'est pas rien quand même. Les défis sont grands, oui, mais bon, il faut regarder les avancées, puis les victoires sociales des dernières années propulsent, je pense, vers l'avant toutes ces populations qui ont beaucoup à nous enseigner.
Oui, oui, absolument. Je voudrais, parce que quand même, il y avait quelque chose qui m'a vraiment marqué dans enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans votre film, mais qu'on revienne sur ce baroque, sur ces décorations, parce qu'il y a des sculpteurs qui ont poussé le réalisme, on parlait de réalisme, jusqu'à mettre des vrais yeux, des vrais cheveux à leurs statues.
Oui, pour rendre ces images divines les plus près possibles d'un visage humain. On utilisait entre autres des yeux en verre. Alors, on a développé là-bas toute un art de fabriquer ces yeux en verre. On utilisait aussi des vrais cheveux. Alors, les statues étaient faites en bois. Elles étaient peintes avec des techniques de polychrome. C'est très, très riche. Des finis aussi très, très luisants. On voit ces peaux de statues qui sont brillantes comme celles des humains. Alors, des yeux en verre, des vrais cheveux, de vrais cheveux humains et même des dents. Alors, on prélevait des dents humaines qu'on mettait dans les bouches des statues pour donner une allure plus que vraie.
Voilà. Et même à travers une caméra, on a l'impression que ces statues sont effectivement vraies. Alors, Linda Paquette, on revient donc sur cette diversité. On va avoir moins de temps, forcément, pour parler du paysage, mais on en parle quand même. Ce qui m'a marqué dans votre film, sont vraiment les couleurs qui sont omniprésentes.
Ben oui, le vert est très présent. C'est la couleur dominante parce qu'évidemment, en Équateur, on a ces forêts équatoriales qui sont d'une luxuriance. Il n'y a pas un centimètre où tout pousse partout. Les plantes, les épiphytes, la mousse. Alors, le vert est dominant, mais effectivement, on a des milliers d'espèces d'orchidées à travers le pays, des orchidées qu'on est habitué de voir en pot ici, alors que là-bas, ben, elles poussent comme ça à l'état sauvage dans les forêts. Alors, elles sont jaunes, roses vifs, et puis il y a tous les oiseaux qui donnent beaucoup de couleurs à la forêt, des centaines d'espèces de colibris avec des reflets parfois métalliques, iridescents, ils sont bleus, ils sont violets, ils sont rouges. Il y a aussi un oiseau qu'on montre dans le film qui s'appelle le coq de roche, qui est d'un rouge vif absolument spectaculaire. Il a un chant tout à fait disgracieux, mais il est magnifique. Alors oui, les oiseaux donnent beaucoup, beaucoup de couleurs aux forêts des Andes et puis aux forêts, évidemment, de l'Amazonie. Et puis, du côté de la côte, eh bien, là aussi, il y a beaucoup de couleurs. L'océan est d'un bleu magnifique. Et puis, il y a aussi des forêts côtières qui fleurissent à chaque année de façon importante. En fait, sur la côte, on connaît au fil de l'année, on voit une alternance entre des saisons sèches et les saisons humides, alors les saisons des pluies. Et puis, pendant notre été, donc disons du mois de juin au mois de septembre, c'est la saison sèche. Et puis la côte, en fait, devient assez terne, assez monochrome. Tout est beige, desséché. On a l'impression que les forêts sont mortes.
Plus jamais rien.
Oui, que c'est fini. Et puis, au fil des mois de l'automne, octobre, novembre, décembre, bon, le climat change. Et puis en décembre ou janvier, bon, on le prédit de moins en moins bien maintenant avec les changements climatiques, mais vers la fin de l'année, les pluies reviennent. Et puis, dès que les pluies reviennent sur la côte, tout reverdit en quelques jours. C'est phénoménal. Dans le film, vous avez vu d'ailleurs des images où tout est terne, tout est beige, et puis pouf, sur l'image suivante, tout est vert. Ce sont les mêmes forêts qui perdent leurs feuilles pour survivre, subsister à ces longs mois sans pluie. Et puis, elles renaissent. Dès les premières pluies, elles renaissent, ça verdit, ça fleurit. Les oiseaux sont là, sont contents. Alors oui, même sur la côte, les couleurs sont vives. Et puis, au sein de cette nature qui est déjà très, très colorée, bien, il y a aussi les costumes très colorés aussi de certains groupes.
Avec une prédominance du bleu et du rouge. Et est-ce que c'est dû aux plantes qui poussent particulièrement et qui donnent des pigments particuliers ou...
Écoutez, je ne suis pas spécialiste en ce domaine, mais j'aurais tendance à vous dire que oui, parce que traditionnellement, le tissage, la teinture des vêtements était fait avec des pigments naturels. Alors, j'aurais tendance à vous dire que oui, probablement que certaines fleurs, certains pigments qui viennent de la terre aussi, certains bleus. Oui, c'est vrai, j'ai vu à certains endroits des fleurs bleues qu'on écrasait pour en extraire une espèce de jus pour faire des teintures. Alors oui, tout est lié à la nature. Tout est lié.
Et on voit des images de marché et c'est vrai que c'est très coloré, c'est magnifique. Comme le temps avance, on va peut-être parler un petit peu de la faune. On a parlé des oiseaux, mais il y a aussi alors, une multitude d'insectes et puis beaucoup de singes aussi. Et puis des cochons d'Inde aussi, mais ceux-là on les mange.
Ouais, on les mange. Mais écoutez, chaque culture a ses traditions. Puis c'est vrai que dans les Andes, surtout dans le pays andin, on a des poules, des lapins, mais on a aussi les cochons d'Inde qu'on va bien engraisser pour les manger. C'est pas quelque chose qu'on mange à tous les jours. Hein. C'est un repas de fête qu'on va garder pour des événements particuliers dans l'année. Alors oui, ça c'est pour les animaux domestiques. Mais il y a aussi évidemment moi un animal qui m'a fait fasciné parce qu'on l'observe très, très rarement, c'est l'ours andin. L'ours andin vit dans les forêts équatoriales et puis on l'observe très, très rarement dans son milieu naturel parce qu'il tend à se tenir, à fuir l'humain qui coupe les forêts. Et puis dans une réserve tout près de Quito, dans une réserve qui s'appelle Maki Pukuna, il y a des scientifiques et puis des gens locaux qui ont acheté au fil des années des pans entiers de forêt pour recréer une espèce de corridor régional à travers lequel les ours pourraient librement se déplacer sans être confrontés à l'homme qui coupe les forêts ou l'homme qui élève des animaux, alors des forêts protégées. Et puis ces ours andins sont attirés à chaque année par un fruit. Qui ressemble un peu à un avocatier sauvage, mais qui est tout petit. Et puis, si on est là au bon moment, ce qui a été notre cas, pendant une dizaine de jours, en septembre, octobre, ça dépend toujours un peu, mais bon, ces ours convergent vers cette réserve pour aller manger ce fruit qui est très, très riche et puis qui leur donne beaucoup de calories. Alors, l'ours andin, c'est la seule espèce d'ours en Amérique du Sud. C'est un gros nounours qui est complètement pacifique. Et puis nous, on a eu la chance de faire des images, de le filmer. On a passé plusieurs jours à l'affût avec les caméras pour essayer d'avoir des bonnes images de ces ours. Et il y en a même un qui est venu me faire un petit coucou puisqu'il est descendu d'un arbre pendant que je le filmais. Et puis, il s'est approché à environ 3 mètres de moi, et puis de moi. Et puis, on s'est regardé, on s'est jaugé un peu. Mais ça a été une belle expérience, ouais. Ouais,
les... Encore une belle rencontre.
Ah, que de belles rencontres, oui, que de belles rencontres.
Est-ce que sur les animaux, vous voulez dire quelque chose, peut-être sur les singes hurleurs?
Oui, en fait, dans la forêt amazonienne, bien sûr, il y a les oiseaux, les insectes, hein, les serpents qui effraient tout le monde, mais il y a aussi beaucoup de primates, de nombreuses espèces de primates, notamment dans la région du parc Yasuni, où on amène les gens pendant le film. On a 12 espèces de primates. Il y a bien sûr les singes écureuils que tout le monde qu'on connaît bien, ce petit singe un peu rigolo, mais il y a aussi des espèces plus rares comme le tamarin, le tamarin roux, que nous, on a eu la chance de filmer. Ça ressemble un peu, je trouve, à un mélange entre un singe et puis un panda. Il a une fourrure très, 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 très jolie, rousse et noire. Et puis, sur le visage, une espèce de masque qui lui donne un peu l'allure d'un panda. Et puis, en marchant très, très doucement dans la forêt amazonienne, on a eu la chance d'avoir un couple de tamarins à quelques mètres de nous. Alors, en sortant doucement la caméra, on a pu faire quelques images pour montrer ces animaux qu'on voit pas souvent et puis qu'on connaît pas. Moi, un tamarin, avant d'aller en Amazonie, mais j'avais aucune idée que ça existait.
Merci, je pense que vous n'étiez pas la seule dans ce cas-là. Donc, on a parlé de ces animaux, on a parlé des couleurs. On peut parler du bruit aussi, parce que vous avez souligné le bruit assourdissant.
Oui, en fait.
Et c'est pas le bruit des voitures.
Non.
Non, c'est le bruit de la forêt.
De la nature. Oui, c'est vrai. Quand on se balade ici dans la nature, on fait des bains de nature souvent pour retrouver un certain calme. On veut être apaisé par la nature. En Amazonie, on est apaisé par cette nature qui peut parfois être très bruyante. Le jour, il y a évidemment les chants des oiseaux. Il y a certains primates comme les singes hurleurs qui crient très, très, très fort. Mais moi, ce qui m'a fascinée, c'est le concert des insectes. Qui s'anime dès que le soleil se couche. On a fait beaucoup de sorties, nous, avec les caméras pendant la nuit pour justement aller capter les sons de ces insectes. Et puis, c'est assourdissant. C'est assourdissant. Ici, quand il fait très chaud, on a les cigales. Et puis, mais là-bas, ça prend... c'est multidimensionnel. En fait, il y a des centaines d'espèces. On ne les connaît pas tous. Et puis, ça emplit vraiment... Tout l'espace sonore de la forêt amazonienne vibre la nuit à cause de ces insectes. Et puis, dans le film, on dit un peu à la blague que ça nous a empêchés de dormir parce que nous, on a fait du camping. Donc, on est allé en Amazonie avec un ami, guide, les pirogues et puis les tentes. Alors, on a vécu une expérience très, très immersive de l'Amazonie. Et puis, oui, les bruits de l'Amazonie, moi, résonnent encore dans mes oreilles.
Si on parle d'Amazonie, on va parler d'un danger. On sait que la forêt amazonienne est en danger un petit peu partout, mais on peut parler peut-être là d'un danger qui guette la partie amazonienne de l'Équateur, qui est le pétrole, ce fichu pétrole.
Ouais, ce fichu pétrole dont on veut se débarrasser. Quand on parle de l'Amazonie...
Pardon, dont on veut se débarrasser, mais en même temps, on ne sait pas comment s'en débarrasser parce qu'on est tous bien contents, finalement, C'est là où on est un peu contradictoire.
Ouais, on voudrait s'en libérer le plus rapidement possible. Ouais, on voudrait s'en libérer. Quand on pense à l'Amazonie, souvent, les images qu'on a en tête, c'est celles du Brésil, où on coupe les forêts pour faire des pâturages, où on brûle la forêt.
Les cannes à sucre.
Ouais, et c'est très différent du côté équatorien. La forêt amazonienne, elle est vraiment plurielle. Alors, les écosystèmes amazoniens ne sont pas les mêmes à l'échelle de ce grand écosystème, si on veut. Du côté de l'Équateur, l'Amazonie est très très humide. Elle est sillonnée par des grandes rivières et puis ce sont des forêts tropicales très, très humides qui sont épargnées par la coupe pour faire de l'élevage. C'est absolument pas propice pour faire de l'élevage d'animaux. Par contre, sous une grande partie de l'Amazonie équatorienne, on retrouve une autre ressource, c'est le pétrole. Et évidemment, les premières découvertes du pétrole remontent aux années 60. Et puis, il y a eu des drames, des catastrophes qui sont très, très peu connues à l'extérieur de l'Équateur, des déversements. Et puis, évidemment, nous, quand on est allé en Amazonie, on a tout d'abord pris le Rio Napo, cette grande rivière qui nous amène dans les régions amazoniennes. Et puis, comme la plupart des voyageurs, ce qu'on voit d'abord, c'est cette magnifique forêt, ce qui est beau, ce qui est riche. Et puis sur le Rio Napo, on s'est mis à voir des plateformes, des espèces de barges sur lesquelles il y avait Toutes sortes d'équipements qui servent pour le pétrole, des camions citernes remplis de pétrole. Et puis là, ben, on a réalisé que sous ce trésor naturel, ben, il y a un autre trésor caché. Il y a beaucoup de pétrole en Équateur. C'est d'ailleurs, en termes économiques, ça représente à peu près 35 % de l'économie du pays. Alors, nous, on a eu envie d'aller voir un peu derrière les paysages parfaits de l'Amazonie. On a eu envie d'aller voir un peu ce qui se cache derrière. On est allé visiter deux villes, Coca et Lago Agrio, deux villes qui sont nées exclusivement à cause du pétrole. Ces villes ont été fondées dans les années 60. Et puis,
pour l'exploitation?
Exclusivement pour l'exploitation du pétrole. Il n'y avait aucune... c'est pas des villes qui ont été colonisées, c'est pas des régions où on retrouve des vestiges liés à une occupation humaine plus ancienne. Elles sont nées pour et par le pétrole. Et puis, dans ces villes, ben, on est allé se balader un peu avec des locaux pour voir un peu ben, les dangers et puis les risques qui sont reliés à l'exploitation. Évidemment, on a vu des choses pas très jolies, des déversements, beaucoup d'équipements aussi mal entretenus hein, qui peuvent provoquer des fuites.
Il y a eu pendant, alors je sais pas, vous le dites dans le film, je ne me souviens plus, mais pendant 20 ans, il y a une fuite, c'est ça?
Oui, il y a un événement tragique qui s'est déroulé en Équateur, près de Lago Agrio. Donc, on n'est pas dans les grands parcs nationaux, on est vraiment dans l'Amazonie peuplée et puis exploitée pour le pétrole. Et puis, autour de cette ville, Lago Agrio, à partir de 1960 jusqu'à à peu près 1990, donc une trentaine d'années, ben, évidemment, il y avait plusieurs grandes compagnies pétrolières sur place, dont une qu'on connaît tous, Texaco. Et puis Texaco, par négligence, a laissé s'échapper des millions, des milliards de litres d'eau usée, pas que du pétrole pur, mais aussi toutes sortes de produits pétroliers contaminés, et puis dans la nature, donc dans les sols, dans les cours d'eau. Et puis, évidemment, ça a fait des ravages. Et puis, cette tragédie, on la connaît en Équateur, on l'a surnommée le Tchernobyl équatorien. Donc, encore là, c'est quelque chose qui n'est pas très connu à l'international, mais il y a une région en Équateur qui se relève encore de cette tragédie. Il y a encore des zones contaminées, il y a encore des zones qu'il faut nettoyer. Évidemment, associé à ça, il y a des histoires humaines tragiques, hein, des gens qui sont malades, qui ont été malades à l'époque et puis qui sont encore malades. Et puis, bon, évidemment, dans le film, il n'y a pas un chapitre complet là-dessus, là, mais on a voulu quand même, parce que, bon, le film est fait pour faire
rêver.
Puis en fait, nous, on dit souvent que pour défendre quelque chose, il faut apprendre à l'aimer pas à la connaître. Alors, d'abord, je pense qu'il faut, aimer l'Amazonie pas apprendre à la connaître. Mais on a voulu quand même ouvrir un peu la porte, tirer un peu le rideau là, pour qu'on voit un peu ce qui se passe derrière ces paysages. Alors, l'Amazonie est menacée, l'Amazonie équatorienne est menacée par l'exploitation du pétrole.
Auquel pourtant un ancien président Sucre a voulu limiter cette exploitation.
Oui, évidemment, ben, on parle de Correa. Évidemment, c'est un personnage qui fait polémique. Hein. On l'admire pour certaines choses et on le déteste pour d'autres. Mais bon, disons qu'il y a eu une bonne idée dans les années 2000. En fait, en 2007, il a proposé à la communauté internationale de stopper toute exploration et exploitation du pétrole sous le parc Yasuni et même sur un territoire plus vaste. Alors, il a proposé à la communauté internationale de stopper l'exploitation du pétrole, mais en contrepartie, il a demandé l'aide des pays les plus riches pour contrebalancer justement le manque à gagner, parce que, bon, 35 % de l'économie d'un pays, c'est pas rien. Alors, l'Équateur ne peut absolument pas se défaire complètement, seul en tout cas, seul, de cette dépendance au pétrole. Et puis, il y a eu des négociations, des pourparlers très, très complexes et très longues. Et puis, si je me souviens bien, il demandait à l'époque 5 milliards pour arrêter complètement le pétrole sous Yasuni. Et puis, évidemment, ben, les sommes n'ont jamais été déposées, hein, données. Et puis, du côté de l'Équateur, on dénonce le fait que les pays les plus riches n'ont pas été solidaires. Du côté des pays les plus riches, ben là, on parle de gouvernements qui n'étaient pas assez responsables, corrompus. Alors, bon, il y avait vraiment un arrimage à peu près impossible entre les deux parties. Bon, c'est compliqué, c'est très politique comme enjeu. Mais nous, quand on est parti du Québec il y a quelques mois, parce que ça fait quelques mois qu'on tourne en France, c'était la COP sur la biodiversité à Montréal. Donc, on parle, Correa a fait cette proposition en 2007. On est en fin 2022, 2023, et on remettait sur la table les mêmes questionnements. Qui doit protéger l'Amazonie? Qui doit payer pour qu'on laisse les ressources de pétrole sous terre? C'était des grandes questions philosophiques qui reviennent presque 20 ans plus tard. Alors, ça a été un échec, la proposition de Correa en 2007-2008, les négociations complètement avortées. Et puis, depuis le début des années 2010-2013, on autorise et on pompe le pétrole actuellement sous Yasuni. Mais bon, ça fait réfléchir. Hein. Il y a des gens qui pensent ces grandes questions, qui doit payer, qui doit protéger, est-ce que c'est un pays, est-ce que c'est la communauté, est-ce qu'on s'ingère ou est-ce qu'on ne s'ingère pas dans les politiques d'un pays pour protéger un bien aussi précieux pour la communauté internationale? Alors, moi, je n'ai pas de réponse à tout ça, mais je lance plein de questions. Il faut réfléchir.
Oui, mais effectivement, alors votre film a le mérite, effectivement, quand vous dites de lever le voile sur quelque chose qu'on ignore, hein, parce que c'est quand même très très loin de chez nous. Donc voilà, on se contente de le consommer, le pétrole, hein, et de se lamenter de le consommer d'ailleurs, mais donc c'était intéressant. Et puis, il ne faudrait pas qu'on reste sur cette interrogation, parce que l'Équateur et ce film que vous avez présenté là pour les conférences à Altaïr, c'était avant tout un moment de dépaysement incroyable, hein, avec des paysages à couper le souffle. Que dire de plus, hein? Je vous laisse le mot de conclusion, Linda Paquette.
Ben, je pense que l'Équateur, c'est peut-être un des secrets les mieux gardés d'Amérique du Sud. C'est un pays, comme vous venez de le dire, hein, magique, magnifique, moi qui m'a complètement séduit. Les paysages de ce pays m'ont séduit, sa biodiversité, mais comme on me le dit souvent aussi à la fin du film, c'est grâce à des rencontres très, très précieuses qu'on a pu nous apprendre à connaître ces écosystèmes. Et puis, de l'Équateur, l'Équateur, pour moi, c'est aussi maintenant de grandes amitiés. Alors, je vais y retourner, ça c'est certain. Et puis, c'est un secret bien gardé. Et puis, c'est un pays précieux, magique, que j'espère pouvoir revisiter encore et encore.
Merci beaucoup, en tout cas, de nous l'avoir fait découvrir. C'est pas forcément un des pays les plus connus, une des destinations auxquelles on pense le plus spontanément. Et pourtant, donc, c'est une destination qui vaut le détour, au moins dans un film. On peut retrouver vos DVD en allant sur votre site internet? Pas du tout.
Contacter Altaïr, donc les ciné-conférences Altaïr qui chapeautent les tournées auxquelles on participe ici en France. Hein. Comme on est québécois, hein, c'est un peu difficile. Nous, il faut faire le pont entre les deux continents. Donc oui, pour les livres et les DVD, le réseau Altaïr s'occupera de relayer l'information avec plaisir.
Très bien, merci beaucoup Linda Paquette, et puis peut-être à bientôt pour un prochain film.
J'aimerais bien, vous savez, on travaille sur quelque chose de très 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 exotique en ce moment. Oui, on travaille sur un projet canadien. Je ne sais pas si vous connaissez la province de Terre-Neuve.
Alors, de nom?
Terre-Neuve, c'est un territoire qui est situé tout à l'est du continent nord-américain. Donc, c'est là qu'on voit le soleil se lever, en premier, lorsqu'on est en Amérique du Nord. Et puis, cette région, ça constitue une province canadienne. En fait, c'est la dernière province à avoir intégré la Confédération canadienne.
C'est pour ça qu'elle est connue.
Oui, et vous savez, Terre-Neuve, c'est à plus de 3000 kilomètres de chez moi, qui suis montréalaise, donc alors c'est presque un autre pays, et j'ai eu la chance d'aller y passer plusieurs mois l'été dernier, et on a envie de raconter l'histoire de cette province, et puis envie aussi de montrer aux gens des paysages qui sont incroyables. Imaginez
très différent là pour le coup de l'Équateur, hein.
Ah oui,
beaucoup moins de végétation.
Beaucoup moins de végétation. Quoique le centre de Terre-Neuve, il y a de grandes forêts, mais imaginez la Scandinavie qui rencontre l'Écosse, l'Irlande et le Grand Nord. Alors ça, c'est Terre-Neuve.
Bon, c'est difficile à imaginer, donc on attend avec impatience votre film. Merci beaucoup, Linda Paquette, et merci aussi à Martin Parent, donc, qui était votre associé pour le tournage de ce film.
Merci. Merci, ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Cette saison des conférences Altaïr se termine, mais rendez-vous dès le mois de septembre. Je suis sûr qu'il y aura des propositions de films encore à nous mettre des étoiles dans les yeux.
C'était Voyage au bout du monde, une rencontre proposée par Isabelle Rupin.